Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. J'avais très hâte de vous parler ce matin. Je me suis levée en me disant, mon Dieu, que j'ai hâte d'aller leur raconter tout ça. On a effectivement plein de sujets pour vous. On va reparler du retrait du crucifix parce que vous dérougissez pas là-dessus. Malgré le fait qu'il y a un sondage pan-québécois qui a été fait au même moment où le gouvernement présentait son projet de loi sur la laïcité et qu'on apprenait donc qu'il y avait quand même une majorité d'entre vous québécois qui étaient plutôt d'accord avec la laïcité, il y a quand même beaucoup de monde qui disent un instant oui pour la laïcité mais touche pas à mon crucifix. Donc en deuxième heure d'émission, je vais vous demander pourquoi vous y tenez tant que ça. On va également revenir sur une pétition qui semble faire beaucoup de bruit. Et juste depuis la dernière heure, avec Normand Jem, mon recherchiste, on suit un peu l'avancée de cette pétition contre le dégriffage de vos chats. C'est la SPCA qui vous invite à faire pression sur les vétérinaires au Québec pour arrêter cette pratique de dégriffer nos animaux, entre autres nos chats. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de chats hein, au Québec, au Canada. Il y en a des millions au Canada. On dit que c'est cruel. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. En tout cas, au moment où on se parle, il y a à peu près 24 000 personnes qui ont déjà signé cette pétition, ce qui est énorme. Mais d'abord, en première heure, je vous propose une discussion sur quelque chose qui nous a intéressés. Déjà hier, on regardait ce qui se passait à New York. Et dans la ville de New York, c'est pas tout de suite. Là. Paniquez pas ceux qui avaient booké là, dans les prochains jours un voyage là-bas. Dites-vous pas que vous allez être obligé de payer un péage urbain. Mais ça s'en vient pour l'année prochaine. La ville de New York a décidé d'instaurer ce qu'ils appellent donc un péage urbain pour, entre autres, freiner la congestion. En tout cas, c'est une des raisons invoquées. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas Montréal? Et ça, c'est une idée qui avait déjà été un peu lancée. Comme ça, vous savez, une espèce de ballon d'essai par l'ancien maire Denis Coderre, qui trouvait que c'était peut-être une possibilité. Dernièrement, ben en fait hier, lancé là-dessus, la mairesse de Montréal a dit « pas tout de suite ». Et ça, bon, « pas tout de suite », ça veut dire peut-être un jour et peut-être bientôt. Elle a dit « on n'est pas là pour le moment, mais vous savez comment ça marche, ce genre d'affaires, ça peut changer ». Alors, nous allons en discuter avec, tout de suite, François Cardinal, éditorialiste en chef à la presse. Salut, François.
Bonjour, Isabelle.
Normand Tétrault est ingénieur. Il est président de Soconex. Merci, Normand.
Bonjour, Isabelle.
Votre réaction à chaud comme ça, là, New York n'est pas Montréal, on le sait, François. En même temps, il va falloir faire quelque chose. T'sais, j'entendais la mairesse de Montréal ce matin qui disait, bon, là, il va falloir déjà qu'on prenne moins l'avion. Il va falloir qu'on... Il y a des choses, il y a des mesures d'éco-fiscalité qui s'en viennent à Montréal. Et là, quand elle dit, il va falloir, c'est sûr, être plus créatif, nous, comme ville. Ça, c'est créatif, là, de la part de New York. Puis c'est la première ville en Amérique du Nord. Mais il y a des villes en Asie qui le font, en Europe aussi. Pourquoi pas nous?
Mais la clé dans ce que tu viens de dire, Isabelle, c'est Montréal n'est pas New York. Montréal ouais. n'est pas la City de Londres non plus. Et donc, moi, je suis favorable à des péages sur les autoroutes, mais certainement pas sur les ponts ou autour du centre-ville. Ça créerait, Isabelle, un mur tarifaire autour de Montréal. Et honnêtement, oui, il y aurait une baisse du nombre de voitures, mais il y aurait aussi sur l'île de Montréal une baisse du nombre de banlieusards et du nombre d'employeurs qui quitteraient aussitôt l'île. L'effet trou de beigne, on n'aurait rien vu encore le jour où on impose un péage comme celui-là.
Mais un péage urbain, là, qu'est-ce qu'on a comprend. Parce qu'un péage urbain, ça peut être comme tu viens de décrire, sur les ponts pour accéder à la ville, mais ça peut être dans les rues, ça peut être tout autour dans la région
mais,
de Montréal pour accéder.
Prends les deux exemples, Londres et New York. Ouais. Londres, c'est vraiment un péage cordon. On ouais. a vraiment ceinturé le centre-ville, alors que New York, c'est une île comme Montréal, donc c'est Manhattan au sud du parc de Central Park.
Ouais. Jusqu'à Battery Park. C'est donc, pas tout New York. Là,
et donc, si on utilise le cas de Londres, ben, ça serait le centre-ville qu'on ceinturerait de péage, alors que si on prend le cas de New York, ben ce serait l'île de Montréal qu'on ceinturerait. Une idée qui a déjà été évoquée, là, Gérald Tremblay était favorable à cette idée-là des péages sur les ponts. Pour moi, ce serait juste une raison de plus pour que la banlieue s'autonomise davantage. Aujourd'hui, là, Isabelle, moi je suis en banlieue, tu as de moins en moins de raisons de traverser les ponts en dehors des heures de pointe si tu ne travailles pas là. Les restaurants, les cinémas, etc. La banlieue est de plus en plus autonome. Ne lui donnons pas une raison de plus pour se développer au détriment de Montréal.
Normand?
Ben, moi, ce que je vois,
vous
c'est...
Vous êtes ingénieur?
Oui.
Alors, d'un point de vue d'ingénierie, là.
Ben, point de vue d'ingénierie, bon, maintenant, tout se fait... On sait que la technologie va permettre de faire, de ceinturer les zones qu'on veut. Mm-hmm. Par contre, ce que moi, je vois dans l'état actuel de Montréal, ça serait... je dirais, ça créerait une certaine... un gros ressac si on faisait quelque chose comme ça. Parce que est-ce que les gens sont prêts à payer pour s'en venir au centre-ville, se promener dans les trous, puis se promener dans les travaux, ou est-ce que vous êtes déjà pris déjà dans la circulation? Dans ce sens-là, c'est prématuré, et je suis d'accord aussi avec M. Cardinal à l'effet que déjà Montréal a de la difficulté à retenir ses résidents. S'il fallait qu'on rende ça plus difficile. Et on le voit aussi, là, la brasserie Molson, par différents espaces, ils s'en vont en banlieue. Il y a probablement d'autres entreprises qui seraient portées à aller s'en aller en banlieue. Dans certains cas, ça peut se justifier, mais ça veut dire que ça deviendrait Montréal à essayer de reprendre le dessus en installant des condos au centre-ville, de revitaliser son centre-ville. Je pense que ça serait pas... Ben, il faut avoir aussi des alternatives qui sont pas encore là. Est-ce que l'effet du REM... Moi, j'ai bien hâte de voir l'effet du REM sur la circulation.
Ben, parlons-en du fameux REM, le fameux train, donc, de la Caisse de dépôt. C'en est où, d'ailleurs, tiens?
Ça avance à vitesse grand V. Si vous promenez...
Pour un train, c'est assez logique.
Oui, mais bon, ça serait... Mais si on voit les travaux et les infrastructures qui sont déjà en construction, ça se développe de chacune des antennes, de chacun des bouts. Ça travaille un peu partout à un très grand rythme maintenant.
Est-ce qu'on le voit? Il me semble qu'on ne voit pas.
Quand on
se
promène sur Wellington, par exemple, ouais. Sur Wellington, dans le coin de Griffintown, là, on le voit le lever. Là, on a créé un empattement à côté du chemin de fer, puis on est en train de le développer. Il y a aussi, dans le coin Vieux-Montréal, Griffintown, des piliers qui ont levé de terre déjà. Donc oui, c'est de plus en plus visible.
Quand est-ce qu'il doit être terminé?
Je crois que la première antenne, c'est fin 2020, je crois.
Est-ce qu'on va être prêt, vous pensez?
Écoutez, si vous allez sur l'autoroute 10 en direction des cantons de l'Est, vous allez voir que le milieu de l'autoroute, là, entre le pont Champlain et le Brossard, il y a des piliers partout. Donc, ça avance. Si vous allez dans le West Island, à hauteur de Pointe-Claire, il y a des piliers partout dans le milieu de l'autoroute. Et si vous allez même au cœur de l'île de Montréal, actuellement, le fameux chaff, qu'on pourrait dire, ou le fameux creux, qui le tunnel qui se creuse pour accéder avec jointe avec le métro de Montréal au coin de Vincent Dindy et Édouard Montpetit, ça fait déjà plusieurs mois qu'on creuse.
Et sur McGill, là, ils viennent de passer à l'étape subséquente là, au centre-ville. Là. Ils sont en train justement de créer ce noyau-là très important, McGill-Sainte-Catherine. Donc oui, non, ça avance très vite.
Parce que là, c'est plus 2021.
Oui, c'est 2021.
2021 jusqu'à d'ailleurs, dans les prochaines années, jusqu'à 2023 là, pour le dernier bout.
Le premier bout, c'est la rive sud, centre-ville. Voilà. Moi, je pense qu'éventuellement, lorsqu'ils vont avoir ça...
Mais ça, là, est-ce que c'est une façon d'éviter le péage urbain dont on parle? Ou c'est en même temps que peut-être un péage... Moi, sincèrement, je vais vous dire le fond de ma pensée là-dessus. J'ai l'impression qu'on va nous en coller un. Peut-être pas là, mais éventuellement, ça va... Moi, je me méfie du discours éco-fiscalité qu'on entend beaucoup.
Isabelle,
c'est quand la mairesse dit
qu'il
va falloir qu'on soit créatif.
Les conservateurs là, avaient dit qu'à l'ouverture du pont Champlain, il y aurait un péage. Là.
Oui.
On était supposé en avoir un.
Exact.
C'est Justin Trudeau qui a décidé de ne pas en mettre un. Et honnêtement,
ça se peut que ça nous revienne dessus, finalement.
Moi, je ne pense pas qu'il va en avoir un sur Champlain comme ça parce qu'on n'a pas besoin d'un patchwork de péage à droite et à gauche. Le jour où vous mettez un péage là, sur Champlain à l'ouverture, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Les gens vont aller prendre Victoria, vont aller prendre Mercier, vont aller prendre
Jacques-Cartier. À court terme, François, mais on n'a pas le choix de passer par là.
Oui, mais justement, il faut mieux penser.
C'est
pour
savent,
ça que je te disais tout à l'heure.
Ils savent qu'on n'a pas le choix de passer par là.
Je te disais tout à l'heure que je suis pour des péages sur les autoroutes. Parce que oui, c'est vrai qu'on n'aura pas le choix de passer par là. Il y a en ce moment un gros problème financier pour le transport en commun, le développement et l'opération pour les années à venir. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Il va falloir être créatif pour reprendre l'expression que tu utilisais.
C'est l'expression de Valérie Plante.
Oui, mais je suis d'accord, mais pas avec la solution qu'elle préconise peut-être éventuellement. Moi, je pense que sur les autoroutes, par contre, une taxe kilométrique, un peu comme on en voit en Europe. On va, par exemple, au Portugal et vous avez ces portes, si vous voulez, technologiques, un peu comme l'autoroute 25. Quand vous prenez le pont de l'autoroute 25, vous n'avez pas à vous arrêter pour payer, comme vous le faites sur l'autoroute 30. Bien, on peut en arriver là, c'est-à-dire...
Hey, c'est 7 et quelque chose, là, le pont de la 25. Là.
Exactement, mais
si t'es pas abonné, là,
oui.
7,82. Donc, exactement, on vient de vérifier ce matin.
Mais les montants n'ont pas besoin d'être aussi élevés. Moi, je pense qu'on va devoir, à un moment donné, quitter la taxe sur l'essence, parce qu'avec, évidemment, la montée des autos électriques, des autos hybrides, les fonds de taxe sur l'essence vont baisser. Et donc, il va falloir aller ailleurs. Et quand allez, par exemple...
Qu'est-ce que vous fumez à Saint-Lambert? Parce que toi, tu habites à Saint-Lambert.
Oui, tout à fait.
Ils vont baisser les taxes sur l'essence, tu penses?
Non,
vraiment,
je pense pas. Je pense que les revenus de la taxe sur l'essence vont baisser.
OK, c'est ça que tu veux dire, qu'il y aura moins de revenus de taxes sur l'essence.
Exactement. Okay. Exactement.
Parce que là, je me disais, ça se peut pas, mais des baisses de taxes.
Okay. Ben non, et je termine là-dessus. Sur les autoroutes autour de Montréal, là, je pense qu'on devrait avoir une taxe kilométrique payeur, utilisateur payeur, et à la distance parcourue, vous payez selon la distance que vous faites.
Normalement, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est la même chose qui se passe aux États-Unis. Si vous prenez la 95 à certaines périodes, vous la descendez en Floride, vous avez le choix d'être plus rapide puis prendre des autoroutes payantes.
Ouais.
Les gens le font pour gagner du temps. On le voit sur la 407, les gens, ils prennent la 407 pour éviter de la congestion.
Ou la somme passe, justement.
C'est ça. Pour ça, moi, je pense qu'il faut leur donner des alternatives avant d'en venir à... Peu importe la tarification, surtout vers un centre-ville, ben, si on veut, il faut donner aux gens le choix de prendre autre alternative. Et je pense que le REM va changer d'une manière importante pour une partie de Montréal, justement, l'accessibilité. Moi, j'anticipe.
Mais c'est dans 2 ans. Ça veut dire que d'ici 2 ans, 2 à 4 ans, d'ici 2 ans, ça veut dire que ça va rester comme d'habitude.
Oh, oui,
on va devoir vivre encore avec cette congestion. Puis dans le cas de la ville de New York, on dit oui, c'est pour désengorger la circulation parce qu'on dit qu'il y a tellement de trafic dans ce bout-là de Manhattan. On dit que les gens roulent à peu près pas. Là.
C'est vrai,
tu roules à 7 km à l'heure. Là, c'est...
N'importe qui est allé à New York le voit bien.
Vous ne pas avec ton auto, me semble.
C'est pas la meilleure façon de se déplacer.
Et c'est vrai que Montréal, des fois, tu as envie de dire vas-y pas avec ton auto non plus, mais pas parce que c'est juste parce que tu vas te ramasser qu'une contravention plus que d'autres choses.
Certainement, c'est vrai.
Parce que tu ne pourras pas garer ta voiture. Puis si tu la gares, oublie pas. Ils attendent que ça finisse ton stationnement pour t'en coller une.
Ouais, si on regarde les frais du stationnement, fort probablement...
Qui ont augmenté.
Oui,
là,
puis moi, j'ai des gens avec qui on travaille qui travaillent au centre-ville et qui restent dans l'ouest, près de la 20. Et pour eux, c'est clair dans leur tête, ils n'ont plus le choix. Ben, ils n'ont plus le choix. Ils ont fait le choix et la fois économique et la fois d'efficacité. Ils prennent le train puis ils se rentrent au centre-ville, puis ils savent beau temps, mauvais temps, ils arrivent en même temps, puis juste le stationnement au centre-ville, maintenant, c'est près de 400 $ par mois.
Et ça, sincèrement, c'est fabuleux. Si ça s'inscrit vraiment dans une offre de transport collectif, puis que ça marche. Bon, je veux vous dire, moi, mes auditeurs, là, si je leur pose la question, êtes-vous satisfait du service de train de banlieue? Vous allez voir que jusqu'à midi, on pourrait faire 2 heures là-dessus, les lignes vont dérouger.
Il n'y a pas juste le train de banlieue, Isabelle, qui pose
tout,
problème.
Tout le long métro, les
aujourd'hui,
autobus.
Aujourd'hui, le pont Champlain, là, avec une voie réservée à la mitaine où on dépose les ticônes oranges, puis il ne faut pas qu'ils vendent parce que sinon, il n'y a pas de voie réservée. Là. C'est une voie réservée qui était temporaire il y a 50 ans.
Ouais.
Et on va passer à autre chose. Il y en a qui disent on n'a pas besoin du REM. Prenez l'autobus de la Rive-Sud et allez attendre en file en plein Griffintown pour rentrer au terminus centre-ville. Vous allez comprendre qu'on a besoin d'un système de transport plus performant. Le soir, même chose, vous arrivez au terminus centre-ville, c'est le bordel total, ça sort par les fenêtres tellement qu'il y a de monde. Il faut un système de transport beaucoup plus fréquent, beaucoup plus efficace. Et le REM, c'est ce que ça va apporter. C'est 20 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous n'avez pas besoin d'attendre le train de banlieue, un des 3 départs du matin, là. Vous en avez constamment. Donc, ça va faire une différence, ça, c'est certain. Là.
Mais là, on commence déjà à dire, les wagons, ils vont-tu passer l'hiver? On va-tu geler là-dedans? Ils vont-tu toujours être sur la voie de garage en train d'être réparés? On est-tu capable de faire quelque chose qui marche au Québec, là, qui roule?
En même temps, tu disais tout à l'heure, hey, ça va vite pour le REM. Ben, tant mieux.
Non, je posais la question.
Parce qu'on est peut-être en train de prouver qu'on est capable de faire les choses dans les temps.
Je n'ai rien vu du REM, là, mais Normand m'a décrit des endroits. François aussi m'avait dit des endroits où on peut aller. Je vais aller voir, mais... Jusqu'à maintenant, ça ne me sautait pas aux yeux là, qu'on était en train de bâtir un train. Mais bon, ça
c'est
se pas
peut, besoin d'aller loin, vous allez, c'est facile à voir rapidement.
Oui. Il y a quand même la question, je parlais de New York, là, l'exemple new-yorkais qui nous permet de discuter de ça ce matin. On dit que oui, pour désengorger, mais aussi pour recueillir des fonds pour rénover le métro. Fait que donc, une fois de plus, là, on dit, bon, ben on va taxer les automobilistes pour du transport collectif, en particulier le projet de rénovation du métro de New York est important. On a un aussi, là, la mairesse avec sa ligne rose. Là. Ça se peut-tu qu'elle décide de mettre un péage urbain pour accéder à Montréal pour subventionner sa ligne rose de métro? Qui sait?
Ben, écoute, c'est possible.
Tout est possible à Montréal.
Moi, je pense que ça serait une erreur. Honnêtement, moi, je mettrais des péages sur les autoroutes et l'argent sert à l'entretien des routes. Tout simplement. Mais la taxe sur l'essence, vous la remplacez par le péage. Et l'argent qui est dégagé de cette façon-là, qui va aujourd'hui dans les routes, vous le mettez dans le transport en commun. Et donc, c'est encore une fois l'utilisateur payeur.
On va aller voir ce que les gens, justement, qui payent, pensent de cette idée d'un péage urbain, peut-être, à Montréal ou dans la région de Montréal. Parce que tout est à faire. Il y a peut-être moyen aussi de s'entendre avec d'autres municipalités. Est-ce que la mairesse pourrait mettre d'autres maires là-dedans, puis que ça serait comme autour, dans la région, pour pas pénaliser seulement Montréal? En tout cas, si j'étais mairesse, je voudrais éviter de pénaliser ma ville à moi, là, puis d'envoyer le monde dans les villes de banlieue. Vous me dites ce que vous en pensez. 514-790-9850, sans frais partout, dans la grande région, dans la banlieue, partout au Québec. 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. On parle donc de ce projet new-yorkais d'étendre son... un péage urbain, en fait, comme le font certaines villes un peu partout sur la planète. Il y a des villes, entre autres, en Europe, on pense à la ville d'Oslo, entre autres, qui fait ça, qui a un péage urbain.
Stockholm.
Bon, on parle de Londres, mais tu le disais très bien, François le Cardinal, d'entrée de jeu tout à l'heure. Londres, c'est une ville particulière. Et pour y avoir été il n'y a pas si longtemps, on peut pas comparer Londres parce que déjà, l'organisation de la ville, la conception de la ville, puis dans ce cas-ci, c'est vraiment le centre-ville touristique de Londres, c'était plus valable. T'étais comme dans le métro de Montréal.
La vitesse moyenne à Londres avant le péage, c'était 13 km/h.
Ah non, mais c'est tout le monde est collé.
Les chevaux avancent plus vite que ça, les calèches avancent plus vite.
Et New York, c'est ça, dans le coin de Battery Park, on dit 7,5 km. Je veux dire, t'avances pas, là. C'est
mais en même temps... La City de Londres, là, c'est un centre financier mondial. Avoir une adresse dans la City de Londres, ça vaut de l'or. Et donc, il y a encore des véhicules qui roulent au centre-ville, même si le coût était, aux dernières nouvelles, de 15 ou 16 $ canadiens là, pour rentrer dans ce péage-là. Montréal
mais
n'a pas cet attrait-là.
Non,
là.
Exactement. On va aller voir ce qu'en pensent les auditeurs. Bonjour, Sarto.
Bonjour.
Alors, un péage urbain à Montréal, autour de Montréal, pour accéder à Montréal, comment vous voyez ça, vous?
Pas du tout. On a déjà assez de péage qu'on fait. Il y a eu la marche là, pour les étudiants là, pour dans le terre. Quand tu vas dans les universités, les stationnements sont pleins. Ils voyagent même pas, eux autres, en autobus. Les gens, il y a cinq voitures par famille, puis ils se demandent c'est quoi le problème de la ville de Montréal. C'est pas le transport. Tout le monde a son véhicule. Fait que c'est pas compliqué. Pour le plateau Montréal, l'ancêtre de la voiture électrique, là, allez voir dans les campings, là, les cartes de golf à batterie, là, mettez ça dans le plateau, ça va peut-être dégager un peu.
On va avoir de la misère en hiver. En même temps, Sarto, je vous entends, puis vous semblez dire que le problème, c'est la voiture à Montréal. Il y a trop de monde avec de la voiture. Fait que c'est un peu ça qui pourrait être derrière ça. Ça veut dire, si plus ça va être cher de venir à Montréal en voiture, puis plus on peut espérer que les gens prennent peut-être le REM dont on parle, le train, non?
Je travaille sur la route, là.
Oui.
Le métropolitain est toujours bloqué, tout le temps. Tout le monde dans véhicule, c'est tout des travailleurs autonomes. Là. Ça travaille toute la route, ça.
Eh oui.
C'est incroyable. Mais non, monde, il se promène à la longueur de journée. La nuit, ça peut bloquer. Vous ne parlerez pas du rond-point de la Casie. Hein?
Merci. Merci, Sarto. Merci beaucoup. Martin, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour, Isabelle. Alors, moi, je suis pour... Parce que, mais je suis pour, mais pas pour tout de suite. Il faut d'abord rendre les transports plus efficients. Et par exemple, tout le monde parle de prendre le métro, mais actuellement, la ligne orange est saturée. Qu'est-ce qu'on attend pour l'élargir, pour créer, comme à New York, comme à Londres, des métros express Laval, Jean Talon, Berry-UQAM, ensuite, parce que autrement, là, faire la ronde de lait présentement, c'est pas attrayant pour un banlieusard. Le REM, on va voir ce que ça va donner. Donc, en partant, si on rend les transports plus efficients, puis si on garantit Rosemère, centre-ville en 30 minutes, mais là, les automobilistes ont plus de raison de prendre l'auto. Parce que d'un autre côté, on parle toujours de la qualité de vie, rendre Montréal agréable, mais qui veut habiter sur Saint-Denis? Qui veut habiter sur Saint-Laurent? Alors, faut diminuer le flot de trafic pour créer un milieu de vie agréable qui fait en sorte qu'à un moment donné, bien là, les gens vont se parler, vont dire, ben Montréal, c'est un milieu de vie agréable, donc je déménage ma famille. Parce que pour l'instant, un, le transport collectif n'est pas efficient. Non. On manque de capacité de transport. Deux, les solutions qu'on nous propose, par exemple, le train de banlieue de Rosemère, ça n'a pas de bon sens. Ils font un détour de 20 minutes par Montréal-Ouest pour atteindre le centre-ville. Donc, ça prend autant de temps que de prendre l'auto. Donc, on prend l'auto parce qu'on a la liberté. Fait qu'il faut travailler là-dessus. Quand on aura travaillé l'efficience, là, on pourra dire, OK, maintenant, là, vous avez le choix. C'est plus rapide le transport collectif que l'auto.
Wow,
si vous vous entêtez à prendre l'auto, ouais, allez-y avec la tarification.
Ouais. Martin, je trouve ça. Là, êtes-vous dans l'industrie, dans le milieu du transport?
Non, moi, je suis dans l'éducation, mais...
Je trouve ça très pertinent, ce que vous venez de nous démontrer, c'est qu'il y a beaucoup de si, François Cardinal.
Oui, je suis d'accord, puis Martin a raison de dire qu'il faut une solution alternative. Si on mettait demain matin un péage, puis que la solution, c'est du transport en commun inefficace, bien là, le signal que vous envoyez, c'est rester chez vous.
Exact.
Il faut une solution alternative. Je pense que le REM en fait partie. Il va y avoir aussi le SRB P9 hein, pour les gens de Laval, pour descendre. Là, ça va être très rapide et une capacité qui va avoisiner celle de la ligne jaune du métro. Les voies réservées pour autobus qui s'en viennent. Le tramway sur Notre-Dame dans l'Est, hein, ça, c'est un projet du gouvernement Legault. Autant de pièces d'un puzzle qui va faire en sorte que le REM en soi ne réduira pas la congestion.
Mais c'est un projet de tramway, mais c'est quand?
Ces projets-là, ben là, c'est sûr qu'il ne sera pas demain matin.
Ouais.
Mais il faut y penser. Même chose pour les péages. Si on en met un jour, ça ne sera pas dans 6 mois, là. Il faut le penser en parallèle au développement du transport en commun.
On a Michel rapidement avant la pause. Michel, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus.
Il n'y en est absolument pas question.
Non.
Parce que moi, je prends pour acquis que dans l'état des routes et du transport en commun, hein, c'est la merde, hein?
Mm-hmm.
Madame Pompadour, Madame la mairesse de Montréal, a choisi de faire payer encore au petit peuple sans y penser deux fois. La facture. Imaginez-vous un péage sur... il n'y a pas de péage sur le Champlain. Ah, là, on va trouver un péage pour les autres ponts. Imaginez-vous la cacophonie qu'il va y avoir sans avoir pensé au transport en commun. Moi, j'en prends pour effet que quand je vais livrer à Montréal, je ne vais plus à Montréal, d'accord? Je ne fais même plus de gâteau de noces, si vous voulez, pour aller livrer à Montréal. J'aime mieux aller livrer ça à Ottawa. C'est beaucoup moins dangereux. Il y a moins, la route est belle et tout, qu'aller livrer ça à Montréal.
Je comprends que vous êtes pâtissier, Michel. C'est ça?
Oui, c'est exactement ça.
Merci. Merci beaucoup. Moi. Merci bien. On va à la pause. On revient tout de suite après. Et on a justement Robert Poitty, ex-ministre des Transports, qui est maintenant président directeur général de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec, qui va nous dire son opinion là-dessus. Vous savez que c'est quand même la deuxième force économique au Québec, paraît-il, selon Robert Poitty. Hâte de voir ce qu'il va penser de ça. À tout de suite, tout le monde. Oslo en Norvège, Milan en Italie, ce sont deux autres villes qui ont décidé d'implanter ce qu'on appelle un péage urbain. La ville de New York a annoncé hier qu'ils avaient l'intention de le faire également pour une partie de Manhattan. Et on se demande, nous, ce matin, devant les mêmes problèmes qu'on a, c'est-à-dire de congestion, je veux dire, ça n'a plus de bon sens, problème de financement du transport en commun également, du transport collectif. On a des rêves de lignes roses, mais à un moment donné, une fois que tu enlèves tes lunettes roses, tu te dis, OK, comment je vais le payer? Et là, c'est là où intervient l'éco-fiscalité, c'est-à-dire des programmes de taxes supposément vertes pour financer ces projets-là, ou encore ce péage urbain qui pourrait être une façon de le financer. Il ne faut pas se leurrer, là. Si ça coûte de l'argent, c'est pas Québec qui va donner de l'argent aux villes. Les villes en ont déjà pas assez. Donc, il va falloir qu'on le paye, nous, comme utilisateurs. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Le principe payeur, tu sais, plus tu roules, plus tu payes.
Utilisateur-payeur.
Voilà, dans ce cas-ci, bon, ça peut être une option. Il y a Daniel qui m'écrit, sincèrement, ça se termine toujours vos discussions par nous faire croire que c'est pour financer le transport en commun. Il n'y a jamais quelqu'un qui explique ou ose décortiquer pourquoi le transport est toujours en manque de financement. Lui soutient que c'est à cause des employés qui sont trop coûteux et des conditions de travail de ces employés-là. Combien ça revient là-dessus?
Ça dépend aussi. Les gouvernements décident de mettre beaucoup plus d'argent dans les routes que dans le transport en commun, de telle sorte que les villes se voient se ramassent avec des budgets qui sont toujours plus petits. Le gouvernement Legault, par exemple, avait promis de rééquilibrer l'argent investi dans les routes et dans le transport en commun. Ils l'ont pas fait dans le dernier budget. Ils ont même augmenté les budgets pour les routes. Donc, il y a un manque à gagner de l'autre côté.
Ouais.
Moi, je pense que ce qui est important, tu parlais, Isabelle, d'éco-fiscalité, de taxes vertes, il ne faut pas que ce soit des taxes qui s'ajoutent à celles qui existent déjà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la taxe sur l'essence doit être remplacée par une taxe kilométrique, par exemple. Il faut que ça soit à coût nul et il faut que cette nouvelle taxe-là permette à ceux qui font des choix alternatifs, comme le transport en commun, de payer moins cher.
Le coût nul, François, ça ne marche pas.
Oui, je sais bien.
À coup nul, ça marche. Non, mais on peut le dire, mais dans la vraie vie, ça ne marchera pas. On a l'ancien ministre des Transports avec nous, Robert Poitiers. Bonjour, Robert.
Hey, bonjour Isabelle, comment allez-vous?
Ben, ça va très très bien. Vous avez été ministre des Transports au gouvernement de Philippe Couillard en 14 jusqu'en 2016. Est-ce que le fait de parler d'un transport d'un péage urbain, ça peut être une option viable et acceptable aussi pour les contribuables, Robert Poitiers?
Ben, dans les deux cas, non et non. Et je salue M. Cardinal qui est là, qui a été... pour moi, une personne que j'ai suivie, élue abondamment lorsque j'étais au ministère des Transports. On a eu des discussions, François, tu te rappelles, oui. Sur une vision globale. Et moi, dès mon arrivée au transport sur un mur, j'avais dessiné ce que je pensais qui pouvait être extraordinaire ou en tout cas minimalement amélioré le transport en commun au Québec. Je ne sais pas si tu te rappelles, François, oui. Il y avait quelque part où, évidemment, je parlais d'un réseau électrique là, métropolitain, donc l'entrée de la Rive-Sud vers Montréal qui se rendait au centre-ville.
Ça c'est le REM, finalement, non?
Oui, mais ben oui, ah ouais. Rappelez-vous, quand moi je suis arrivé à ce gouvernement-là, l'état des finances publiques en 2014, en tout cas, n'était pas celle qu'on a, on avait celle qu'on a aujourd'hui, et on n'avait pas de sous pour faire ça. Et lors d'un souper avec Michael Sebia, comme ministre de Montréal, j'étais à la fondation du musée McCarthy, il était assis à ma table, puis il a dit « qu'est-ce que vous allez faire avec le transport collectif sur le pont Champlain, M. Poitiers? » J'ai dit « moi, j'ai beaucoup d'idées, mais j'ai pas d'argent. » Et lui a dit, ben moi, j'ai de l'argent, mais j'ai pas le droit de faire ça au Québec. Alors, quand on dit on n'a pas d'idée d'innovation, là, c'est faux, parce que je dis, ah oui, parfait. Moi, je suis législateur, M. Sebia. Si demain matin, vous avez le droit d'investir à la Caisse de dépôt en infrastructure au Québec, est-ce que vous le feriez? Il m'a dit oui. J'ai dit, combien? Il dit, entre 5 et 6 milliards. On s'est donné la main. J'ai appelé au bureau du premier ministre le même matin et j'ai dit, écoutez, j'ai trouvé quelqu'un qui veut investir en infrastructure sur un réseau électrique métropolitain. Il est parti à rire au bout de la ligne, il faut que je vous dise, au cabinet. Là. Mais en finale, aujourd'hui, c'est moi, avec Carlos Létard, qui avons signé le projet de loi pour permettre à la Caisse de dépôt d'investir en infrastructure comme elle le fait partout dans le monde. Ceci étant dit...
Ça a été un souper payant, ça, Robert?
Ben, c'était payant pour les citoyens, mm-hmm. Pas pour moi, mais pour la Fondation, oui, parce qu'on faisait ça pour une bonne cause.
Ouais, ouais.
Mais l'idée aussi, François, tu te rappelles, j'avais dit, ce train électrique-là, dans un premier temps, on comprend qu'il va rentrer à Montréal, après ça, il va s'en aller à Dorval, mais il y avait une possibilité d'un petit croche sur Notre-Dame pour se rendre jusqu'à Repentigny et peut-être utiliser l'ancien pont de Repentigny et rentrer à Repentigny, donc dans l'Est. Sur l'autre côté, ce que je disais, mais là, on s'en allait dans l'Ouest avec le réseau électrique métropolitain. Là, il va s'arrêter à Saint-Charles, puis on s'est battu pour que ça arrive à Saint-Charles. Mais la vérité, il devrait traverser le pont des Léotourpes et s'arrêter aussi à Vaudreuil, qui est un deuxième point vraiment important. Ce que vos auditeurs disaient, est-ce que c'est important d'avoir des options? La réponse, c'est oui. Le pont de la 19, il est payant actuellement. Ce pont-là est payant parce que c'était un ajout qu'on faisait. Donc, vous pouvez utiliser un autre pont qu'un pont payant pour aller à Laval. C'est ce qu'il faut offrir aux citoyens, une alternative. Tant aussi longtemps que les alternatives ne sont pas là, c'est sûr que c'est difficile pour les gens de dire « je vais laisser ma voiture ». Si vous savez, si vous en allez dans l'Est, là, l'autre chose aussi, quand je pense à la ligne rose, moi, je veux juste vous dire, là, aller sous la terre, c'est 3 fois plus dispendieux qu'être en surface. Et toutes les études le prouvent. Et en plus de ça, sur le plan de l'humain, là, les gens aiment mieux rouler à l'extérieur. Les technologies aujourd'hui, même d'hiver, nous permettraient d'avoir quelque chose d'extérieur pour 3 fois moins cher, donc qui vous permet au même prix d'aller 3 fois plus loin. Là, c'est, le calcul est facile à faire. Donc, arriver puis mettre des taxes additionnelles sur les consommateurs qui conduisent les voitures actuellement serait une grave erreur de faire ça.
Et c'est sûr que maintenant, tu n'es plus Robert Poitiers, ministre des Transports, mais bien président directeur général d'une corporation qui vend des autos, quand même. Fait, donc, c'est sûr que...
Je représente l'ensemble des concessionnaires automobiles du Québec. Je disais que c'est le deuxième levier économique au Québec, parce que le premier étant celui de la construction, mais je rappelle à tout le monde que le premier levier économique mondial, planétaire, c'est l'automobile. Alors, je veux juste dire, comment on peut gérer ça? Il faut innover. M. Cardinal l'a démontré dans ses textes. Malheureusement, il n'était pas assis dans la chaise avec moi au ministère des Transports.
Non, mais je vois qu'il a fait du dommage dans ton cerveau quand même.
Ben non, on avait une très bonne relation, Robert et moi.
Non, mais quand François dit... Non, mais vous êtes comiques quand même, les deux. Parce que quand François dit, on va éventuellement remplacer la taxe d'essence par
une taxe kilométrique,
vous me faites rire ce matin, les amis. Parce que d'abord, les gens vont... Et c'est pas parce qu'on aura baissé les taxes. François, j'ai bien compris que tu dis c'est parce que les gens vont être moins dépendants de la voiture. Donc, c'est pour ça qu'il y aura moins de revenus de taxes. Mais moi, je pense pas. Les gens s'en achètent toujours autant des voitures, n'est-ce pas? C'est pour ça que Robert Poédy est content et que ses concessionnaires automobiles aussi. Les gens s'achètent toujours des voitures, pas forcément électriques d'ailleurs.
Non, mais elles sont de plus en plus.
Moi, je parle au moins une fois par jour à quelqu'un qui va s'acheter un F-150. Fait que, tu sais, on n'est pas à la veille d'avoir moins de taxes sur l'essence, les amis.
Moins de revenus de la taxe.
Oui, moins de revenus de taxes, j'y crois pas à court terme.
Il faut que je te dise quelque chose, Isabelle. Oui, tu as raison quand tu parles de le premier véhicule là, le plus vendu sur la planète là, dans les premières années des véhicules automobiles, c'était le Ford T. Donc, quand le Ford a sorti ce modèle-là, qui en fait, si tu peux avoir l'expression, un genre de pick-up, là, c'est pour que les gens nous comprennent bien. Mais c'est encore le véhicule le plus vendu sur la planète, là, comprenons ça. Maintenant, ce qu'il faut se dire...
La Ford T, c'était pas un pick-up là, quand même. C'était...
Oui. Ben, je vais vous envoyer une photo, tu vois, c'est pas mal un pick-up.
Ouais.
Et là, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'écologie prend sa place. Les concessionnaires, les constructeurs, donc il y a 3% du marché des véhicules électriques et c'est le Québec qui obtient la panne tous les ans. On l'a perdu l'année passée parce que l'Ontario donnait 14 000 $ pour un incitatif d'achat électrique. Puis M. Ford est arrivé, puis lui, ben, il a baissé le prix de la bière, puis il a retiré le 14 000 $ pour en les
Ontario.
Véhicules électriques.
Ouais. On va parler de l'électrique justement nous vendredi en première heure d'émission, mais pour en venir à ce qu'on pourrait faire, parce que c'est un problème, il va falloir qu'on le règle. On n'a pas assez d'argent pour le transport collectif. Puis tu parles d'alternatives, Robert. Les alternatives sont boiteuses, là.
Non, il y en a. Il faut de l'innovation. Mettez un gars comme François, mettez un gars comme moi, mettez des personnes qui ont un peu d'ouverture pour tout le monde. Pour tout le monde.
Mais savez, là, où est-ce qu'on te met, Robert? Tu veux faire quoi? Tu voudrais...
Moi, ce que je fais là, ça va bien. Mais ce que je veux dire, prenez un profil, prenez un clone qui dit qu'est-ce qu'on fait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas plus avec moins. Je te comprends. Mais est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a? Exemple, il y a une voie réservée centrale pour les autobus là, qui rentrent à Montréal. Il y en a 600 tous les jours de la Rive-Sud qui rentrent. Là. Tous les jours, c'est 600. Il y a une voie réservée qui est quand même assez longue. Qu'est-ce qu'on va faire quand le REM va être installé? On va démanteler ça? J'espère que non. Quand moi, j'ai négocié avec le fédéral pour le pont Champlain, on a dit on fait un pont temporaire de l'île des Sœurs à côté, mais un pont qui est flambant neuf. Là. Et on m'a dit, est-ce que vous voulez le garder?
Oui, on veut le garder, je te le confirme, on veut le garder.
Non, mais moi, j'ai dit oui, Isabelle, c'est pour ça qu'il est encore là. Et là, là, on a de la place à de la créativité avec la voie centrale qu'on avait là. Le pont Champlain, là, il y a la différence du pont Champlain, il y aura trois voies, mais des accotements. Ce qu'on n'avait pas sur le pont Champlain actuel, est-ce qu'une des voies d'accotement aux heures de pointe peut devenir pour du covoiturage, des véhicules électriques? Alors, moi, je pense qu'il y a de l'espace, il y a de la créativité.
Mais je sais pas, regarde, j'ai Julie qui me pose une bonne question. Julie m'écrit, elle dit, je sais pas si vous en avez parlé, mais les camions, on fait quoi sur les camions, sur les routes aux heures de pointe? Elle dit qu'elle a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que ce serait possible de faire comme d'autres villes? Transport de camions, c'est la nuit ou après 19h. C'est plus écologique, puis on gagnerait du temps. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben alors, on pourra faire ouvrir les commerces à 1h l'après-midi parce qu'eux, ils reçoivent par les camions ce qu'ils vendent. Je veux dire, il y a un lien économique majeur à faire dans le transport. J'y ai été pendant une couple d'années dans le transport.
Ouais.
Le transport, c'est la clé. C'est bien beau acheter en ligne, là, mais savez-vous quoi? Qui va vous le livrer? C'est un camion. Je veux dire, c'est comme ça que c'est ça se passe. Alors, il faut faire attention à ce volet-là. Est-ce qu'on peut mieux? Oui. On avait autorisé pour le port de Montréal une sortie pour Hippolyte Lafontaine qui venait enlever une grande quantité de camions, évidemment, dans la région de Montréal pour les amener sur la rive sud. Plusieurs entreprises s'installent à l'extérieur de Montréal dans certains cas. Donc, je pense qu'il faut travailler avec l'industrie du camionnage, mais de dire, bon, ben dorénavant, ils roulent plus le jour, on ne réglera pas ça. Il faut servir tout le monde également et protéger notre économie qui va bien. Moi, je pense qu'il y a de la place. Regardez l'autoroute 13, là. Moi, j'ai toujours dit, pourquoi l'autoroute 13 s'arrête à 4,40? Hein, ça devait aller jusqu'à Mirabel. Pourquoi que le privé ne s'investit pas là-dedans et que ça ne deviendrait pas rentable une voie réservée ou une autoroute qui monterait jusqu'à la 6,40? Donc, ces gens-là de la 15 qui viennent vers Montréal depuis des années, ils sont vraiment résilients. Là. Moi, je ne sais pas comment ils font. Alors, en quelque part, il fallait trouver quelque chose. Donc, moi, je pense qu'il y a des opportunités. Il y a de la place pour l'innovation. Merci. Des gens comme M. Cardinal, ils ne faisaient pas juste critiquer dans le journal. Ils donnaient des options et des solutions. C'est pour ça que je l'appréciais. Puis je
merci.
Merci,
bon,
Robert.
Ben, vous irez prendre un verre ensemble, les amis.
Ben, oui.
Merci beaucoup, Robert Poédy. Ben. Robert Poédy est ex-ministre des Transports du parti à l'époque quand c'était les libéraux. Il est aujourd'hui président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. On s'arrête ici. On revient tout de suite après la pause avec quelques auditeurs. Bonjour Michel. Vous êtes pour le péage urbain tel qu'on le discute ce matin?
Non, pas exactement comme ça. Mais oui, je suis quand même pas. En réalité, le problème majeur à Montréal, c'est que le métro a été vraiment mal pensé. La ligne orange devrait être une boucle. Elle devrait partir de Laval puis aller connecter à Côte-Vertu. Puis la ligne verte et la ligne bleue devraient être une grande boucle qui connecte à chaque bout puis qui aurait des stations à la Chine et à Pointe-aux-Trembles. Puis la ligne jaune de Longueuil devrait faire un rond aussi pour aller connecter ailleurs, pour aller connecter ailleurs.
Mais méchant travail là, que vous voulez nous faire, là, je pense.
Mais justement, ce péage-là pourrait être un genre de GoFundMe qui pourrait être facilement suivi sur Internet. Puis ce péage-là pourrait être là conditionnel jusqu'à temps que ce métro-là soit entièrement payé. Et le péage pourrait être modulé en fonction d'être plus léger pour les livreurs, les camions et tout, et légèrement un peu plus élevé pour les automobilistes, même si ça serait très sûrement un tollé.
Ouais.
Mais ça serait à eux.
Mais vous savez qu'on paye déjà pour le transport collectif, les automobilistes.
Oui, mais on pourrait le voir plus comme un genre de GoFundMe, parce que la société n'a pas les moyens de se le payer.
Ouais. Mais c'est volontaire, GoFundMe, hein? C'est pas obligatoire. Je sais pas combien de gens vraiment de leur propre chef, comme la bourse du carbone, on en parlait avant l'émission avec François Cardinal, mais tu sais, la bourse du carbone, François, c'est pas tout le monde qui contribue. Voulez-vous payer vos points de carbone? La plupart des gens disent, voyons donc, non. À part Valérie Plante, qui, quand elle part en avion, là, elle part en Argentine aujourd'hui, elle a payé ses points de carbone.
Mais
c'est très, très bien.
Les prolongements de métro, oui, c'est vrai que si la ligne orange était bouclée, ça serait mieux. Mais je pense qu'à court terme, honnêtement, Valérie Plante, avec sa ligne rose, a un bon point. Parce que le
nœud... On n'a juste pas les moyens.
Le
c'est un bon point, mais
problème,
on n'a pas l'argent.
Oui, ben parce qu'on ne fait pas ce choix-là collectivement. Le nœud du problème dans le réseau de transport...
Il y en a pour 3 milliards, le genre.
Est-ce qu'on a dit la même chose quand on a refait Turcot, quand on a fait Champlain, quand on a fait les grandes infrastructures? On s'est dit, non, ça coûte trop cher. Mais non, on les a faites. Je m'excuse, mais la ligne rose, on pourrait très bien décider que c'est le prochain gros projet de transport en commun sur l'île de Montréal. Et ça permettrait de décongestionner Berry, parce qu'à l'heure actuelle, il est là le problème du réseau.
On a Serge avec nous. Serge, bonjour. Un péage urbain, oui. Ça vous tente, le principe d'utilisateur-payeur aussi, péage au kilométrage?
Moi, non, parce que je suis un Montréalais d'adoption. Donc, moi, c'est encore toujours des taxes. Et je suis content que vous ayez eu un ingénieur et le monsieur...
Normand Tétrault qui est avec nous, oui.
Oui, parce que moi, je trouve qu'il faudrait regarder ça globalement, le problème de transport dans les régions de Montréal et même du Québec, parce que géographiquement, le Québec... est la seule province qui est séparée par un fleuve et la rivière des Outaouais. Mm-hmm. Donc, partout où on veut se promener au Québec, faut traverser le fleuve. Mm-hmm. En plus, la région de Montréal, il y a combien d'îles qu'on peut nommer? Donc, faut toujours traverser des points d'eau pour se promener au Québec. Donc, pour avoir une fluidité de trafic, c'est pas impossible. Le transport en commun, c'est bon. Mais comme je disais toujours un exemple à des amis, si tu veux, être à Saint-Jérôme le samedi matin et aller aux eaux de Granby, faut que tu traverses l'île de Laval, il faut que tu traverses l'île de Montréal.
Ah, mais c'est sûr.
Tu passes
dans
des ponts tout le temps, donc tu n'as pas le choix. Même ceux qui restent à l'île des Sœurs, qui sont au milieu des travaux, ils sont pris.
Ouais.
Donc, géographiquement, le Québec, pour être fluide en trafic, ça prend des ponts ou des alternatives. Mais c'est quoi les alternatives?
Oui, bien, des ponts, je veux bien, mais est-ce qu'on les fait payer, ces ponts-là? C'est tout notre débat de ce matin. Merci, Kamal, votre réponse à ça.
Moi, je suis contre. On ne fait que payer. Moi, j'ai un petit véhicule, là. Et juste le fait de remplir 50 $ de gaz, là, déjà, ça me coûte cher, parce que, vu les moyens. Et moi, je pense aussi aux familles qui sont démunies, etc. Mmh. Mmh. Les gens pensent juste à faire payer les gens. Mais imaginez-vous, déjà, 50 $ de gaz par semaine, c'est beaucoup. Et les gens doivent traverser, etc. Non, c'est un moyen de nous faire encore payer et encore payer. Et les gens acceptent. Écoutez, le centre-ville, pour moi, c'est fait pour les gens qui ont de l'argent. Ouais. Les avocats, les courtiers, les gros trucs, là, les gros bonnets. Même quand vous allez stationner, ça coûte très, très cher. Quand on va juste à l'hôpital là pour mes enfants, là, si je trouve pas un petit parking gratuit, je me trouve en train de payer un stationnement à je sais combien.
21 $ au moins.
Moi, je trouve que, pour quelqu'un qui travaille au salaire minimum, les gens pensent, oui, c'est bien. Quand ça va arriver? Ils vont commencer à chialer. Mm. Moi, je vous le dis. Mais celui qui a 100 000 $ par année, 200 000 $ alors lui, il peut se permettre, même si le pauvre fait payer l'aller-retour, ça ne le dérange pas.
Merci, nous, Kamal. Ça, on termine là-dessus. Je voudrais juste donner 10 secondes à Normand Tétrault, notre ingénieur. Conclusion?
Conclusion, si on regarde effectivement au niveau des infrastructures, on n'est pas assez de payeurs pour tout l'ensemble. On est 7 millions, autour de 8 millions au Québec.
Ça serait pas
suffisant. Et on est les plus grands propriétaires de kilomètres de routes et de ponts au monde.
Wow! Il y a de l'argent là qui dort quand même, hein, François?
Oui, c'est vrai. Il y a de l'argent. Quand on veut, on peut.
Merci à tous les deux. Merci bien.